Écrite religieuse par le père Philippe à Saint-Joudard, le 20 juin 90.
Was. du bien, dans l'ordre du mal, c'est évident. Dans l'orgueil et les initiatives par rapport au péché. Mais dans l'ordre du bien, c'est la première fois où il y a cette coopération. Et là, c'est à partir de là qu'on pourrait comprendre, au plan purement philosophique, comment l'homme ne peut pas, dans cet ordre de la procréation, ce qui montre que l'homme ne pourra jamais venir directement pour l'heure de sa mort, puisque l'âme est créée par Dieu, c'est Dieu qui est le garant. tirier de la justice sous le point de vue de la vertu de religion. La vertu de religion joue un rôle universel par rapport aux vertus cardinales. Elle transforme ces vertus cardinales en leur donnant comme une extension nouvelle, un droit nouveau apparaît avec la vertu de religion. Ça, c'est sûr. Un droit nouveau par rapport à l'homme, par rapport au corps de l'homme, par rapport à la vie de l'homme, par rapport au commencement, la procréation et le point de vue de la mort. La mort n'est pas le même en éthique religieuse et en éthique humaine. Elle a un autre regard. On pourrait revenir là-dessus. Parce que je crois que ça, c'est très important. Et je dirais que c'est la même chose par rapport à l'éducation. Il faut comprendre quand il y a un exemple comme celui du roi des Belges, il faut se dire, mais vous pensez, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est un scrupule? Certains disent qu'il est scrupuleux, c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais non, non. C'est la rectitude d'une conscience humaine religieuse. Et en conscience religieuse, il devait vers ça. Parce qu'on n'a pas le droit de coopérer à quelque chose qui est injuste. Au sens très fort. Et c'est là où se pose la question du droit de mort. Alors, pas en éthique personnelle, mais en éthique politique. En éthique politique religieuse. Étant donné que la personne humaine est quelque chose de sacré, est-ce que l'État a le droit de... Je ne résous pas. Simplement le problème qui se pose avec acuité, c'est sûr. Au point de vue prudentiel, alors comment la vertu de religion va-t-elle modifier la prudence? L'éthique religieuse ne va pas modifier la justice commutative au point de vue économique. Au niveau de la justice distributive, elle va apporter quelque chose de particulier. Ce qu'on appelle la justice sociale. La justice sociale est au niveau religieux et pas au niveau chrétien. Quand l'Église parle de la justice sociale, il faut voir ce que ça veut dire. Ce qu'on répète, on répète, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Le premier qui a parlé de l'éthique de la justice sociale, c'est Rosmini. C'est un philosophe. Ontologiste. Alors vous vous demandez si c'est juste ou pas juste. Et l'Église l'a ensuite repris dans les encycliques. J'ai fait toute l'enquête sur la justice sociale, parce que ça m'intéressait. Parce que j'avais demandé à droite et à gauche des explications et personne n'a dit d'explication qui était. Vous voyez? Parce qu'au point de vue justice commutative, la justice distributive, la justice légale, alors où situer la justice sociale? Est-ce que c'est la justice sociale? Non. C'est pas comme ça du tout dans l'Église. Alors est-ce qu'il faut mettre une quatrième, car ça t'as pas vu? Ou est-ce qu'il faut tout simplement comprendre que, étant donné le rayonnement de la vertu de religion sur la justice, vous avez au niveau de la justice distributive, un nouveau problème que vous pourrez dire justice sociale. Et c'est dans la lumière de la justice distributive. Vous voyez, celui qui paraît, par exemple, gouverne. Et puis parce qu'il gouverne et qu'il est de tendance politique rose, ni rouge ni blanc. Alors, parce qu'il y a une tendance rose, est-ce qu'il a le droit de mettre tous les petits copains dans des situations bonnes, indépendamment de leurs compétences? Non. C'est aller contre la justice distributive. Et aller contre la justice distributive, c'est la destruction d'un pays, dit saint Thomas. Parce que c'est éloigner les compétences et par le fait même abaisser tout le niveau de l'État. C'est de justice distributive, ça. Et la justice distributive est au niveau de l'éthique humaine. Alors qu'apporte le point de vue de la justice sociale, le regard sur la famille? Vous n'avez pas le droit de traiter de la même façon un père de famille qui a 6 enfants qu'un célibataire. Vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est justice religieuse. À cause du caractère sacré de la procréation. Alors là, il y a un, et c'est ça la justice sociale, tenir compte de la dignité de la sont des charges de l'évêque. Là, il y a une répercussion immédiate. Ça touche la justice distributive. Une justice distributive très bien faite pourrait dire ça. Il est bien évident qu'un père de famille qui a 6 enfants n'a pas le droit d'être payé de la même façon qu'un célibataire. Dans une justice distributive bien faite, on devrait déjà le découvrir. Mais la plupart du temps, on ne la voit pas beaucoup, parce que c'est l'économie qui est la loi suprême. Alors on ne tient pas assez compte de la personne et de la famille. Alors dans une justice, au point de vue religieux, tout de suite, la famille prend un caractère sacré. Alors, ça met ça très en lumière. Mais ce serait déjà vrai au point de vue purement humain, je crois. Mais c'est des problèmes très difficiles, très délicats et intéressants et importants à voir au point de vue éthique. C'est important à voir au point de vue éthique. Parce qu'il y a une solution, il y a d'abord un regard éthique, puis après, vous avez un regard politique. Commandée par l'éthique. Le point de vue politique, alors, c'est la situation de l'État. La situation de l'État, la situation de situation économique internationale. Ça, c'est sûr qu'on est, comme aujourd'hui, on est dépendant. On arrive à des aberrations aujourd'hui, mais complètement au point de vue éthique, éthique politique. Autre chose, c'était lundi dernier, pas lundi ici. À Lyon, je voyais Patrick Louis, n'est-ce pas, qui est professeur d'économie. Et on parlait de ces choses d'aujourd'hui, ceux qui sont chargés uniquement de la question de la bourse et de la vente des actions. De Toyota au Japon se vantait, elle le disait quoi, que les 8, il y en a 8 paradis qui font de la voltige, c'est pas au point de vue économique, et qui passent leur temps uniquement à ça. Ces 8 en un an ont fait gagner à Toyota plus d'argent que les 50 000 ouvriers qui travaillent en usine. C'est un petit signe de l'aberration dans laquelle on est. Parce que c'est purement, vous voyez, c'est, on va dire, arbitraire. C'est pas arbitraire, cependant, c'est arbitraire. Vous voyez, comme le travail humain se trouve relativisé. Et donc perd toute sa valeur. 50 000 ouvriers. Travailler comme des Japonais. Et ça, c'est le travail, on sait. On a tous vu le petit film japonais qui montre le travail aux gens en usine et la manière dont ils le font. C'est quelque chose. Et 8 qui partent. Les spéculations, là, c'est le cas de le dire. Les spéculations extrêmement habiles arrivent à faire ça. Justice sociale. Vous direz bien ça, non? Parce que si on gagne comme ça, il y en a nécessairement qui perdent. Peut-être autrement. On a donc ruiné sans doute des quantités. Et par derrière, avec des quantités étaient au chômage. Donc, on est source inconsciemment. Volontaire indirect, diront les gens. Hein? Est-ce que c'est du volontaire indirect? On est source de terribles injustices dont on ne voit pas les conséquences. Alors c'est le cas de conscience que se posent certains. Mon père, est-ce que j'ai le droit d'entrer? Ils gagnent pas mal ces gens-là. Je comprends, ils sont assez habiles. Énorme. que c'est là le regard au point de vue éthique ultime. Parce qu'on est responsable quand même de l'humanité de lui donner la nourriture. Est-ce que j'ai le droit d'augmenter le chômage par des spéculations qui vont gagner, des trusts qui gagneront encore plus? Alors c'est le gros regard, alors on me dira oui, mais ça lui permettra, à Toyota, ça permettra d'ouvrir de nouvelles usines et donc d'embaucher encore de nouveaux. Oui, c'est très vrai, mais est-ce que ça correspondra? C'est les petits qui sont mangés par les gros. Justice sociale. On comprend que l'Église, à ce moment-là, elle dit ça, justice sociale. Mais je comprends que c'est très difficile de comprendre ce que c'est que la justice sociale. Telle que l'Église, parce qu'elle définit jamais. Alors c'est du côté de la justice distributive et l'influence de la prudence et l'influence de la vertu de religion sur l'exercice de cette justice distributive. Si on veut avoir tous les éléments de la justice sociale, j'avais travaillé à Fribourg avec un juriste, parce que je travaille avec des juristes quand c'est comme ça. Quand il s'agit de la justice, ce qu'ils connaissent mieux, et c'est intéressant et c'est important de comprendre ces problèmes-là aujourd'hui. Il faut lire les encycliques sur la justice sociale, ça apporte de la formation au plan philosophique et au plan théologique. Et au plan philosophique, il faut avoir lu au moins quelques encycliques sur la justice sociale, puis se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Et comparativement à l'analyse de saint Thomas et à l'analyse d'Aristote, qu'est-ce que ça correspond? Et on comprend très bien que c'est dans ce domaine-là que tout problème s'est posé avec une acuité beaucoup plus grande. Et ça pose en dernier lieu le problème de la personne humaine. Parce que la justice, la personne seule est supporteuse de droit. Le petit chien n'est pas une personne, il n'a pas de droit, le pauvre petite bête. Est-ce qu'il a le droit d'avoir une redingote quand il fait froid? Un beau petit habit, tu vois. Non, il n'a pas le droit. Aucun droit. Ah, la propriétaire peut, par surcroît de miséricorde, si c'est de la miséricorde, par surcroît de d'affection, disons, d'affection passionnelle pour ce petit chat ou ce petit chien. Alors, au niveau prudence, vous voyez, va faire comprendre que la prudence est modifiée intrinsèquement par la vertu de religion, puisque tout va être ordonné au mystère de l'adoration et de la nouvelle finalité. Il y a une nouvelle finalité, c'est pour ça qu'il y a une éthique religieuse, vrai, parce qu'il y a une nouvelle finalité, la contemplation. La contemplation de Dieu. Et tout est modifié en fonction de ça. Il est légitime, en éthique religieuse, de ne pas se marier pour tendre vers la contemplation. C'est légitime. Tandis qu'en éthique purement humaine, l'amour d'amitié, c'est très difficile. Ce qui explique comment certains états l'empêchent. Oui. L'éthique religieuse donne à la famille une situation très importante, mais au-delà de la famille, la finalité personnelle. Et ça, c'est l'éthique religieuse qui montre que la finalité personnelle est au-delà de la famille. Je ne suis pas obligé de me marier. Et je ne suis pas obligé de me marier, même au nom de l'espèce humaine, même au nom de la nature humaine, si je tends vers la contemplation. Est-ce que je peux ne pas marier uniquement pour une carrière artistique? Ça aussi, c'est des problèmes qu'on vous pose. jusqu'au bout et de ne pas me marier. Il ne faut pas dire du tout que c'est des vieux problèmes, c'est des problèmes très actuels et que les jeunes se reposeront aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de ne pas marier pour une carrière politique? Je crois que la seule chose qui me permet de ne pas marier légitimement, puisqu'en se mariant, je coopère à l'État, je coopère au pays, il y a une dénatalité énorme. En mariant, je permettrai de, quand même, d'aider un peu. Tandis que quand je ne me marie pas, j'augmente la moyenne inverse. Avec tous ceux qui n'ont plus d'enfants ou très peu d'enfants, je coopère avec eux. Je coopère pas du tout avec eux. Comprenez bien, quand je dis ça, je coopère pas du tout matériellement, je coopère pas du tout avec eux. Puisque je le fais pour une finalité tout autre. Extérieurement, c'est peut-être la même chose, mais intérieurement, c'est tout autre. Puisqu'on le fait. Seule la contemplation, je crois, permet légitimement de ne pas se marier. Même pas les œuvres. Pour Saint-Thomas, c'est net. Même pas les œuvres. Je serais plus libre, je pourrais me donner davantage aux œuvres, n'étant pas marié. Est-ce que c'est légitime? Le mariage est une chose si grande que seule la contemplation légitime de ne pas se marier. Il faut se le rappeler. Alors évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Il faut se marier parce qu'on aime quelqu'un. Vous pouvez dire, je me marie par devoir pour donner des enfants à Hitler. Ça, c'est suffisamment simple. On n'a jamais le droit d'obliger quelqu'un de se marier. Ben, par vertu, non. Jamais, jamais. On se marie par amour. Alors évidemment, on ne peut jamais trouver, quelquefois, on ne trouvera jamais l'âme sœur. Alors par dépit, on entend la vie religieuse. Ben, c'est vrai, une communauté religieuse spéciale pour ça. C'est très intéressant. Non. C'est par amour qu'on se donne au Christ. C'est par amour qu'on cherche la vie contemplative. Et cela suffit pour légitimer une vie toute donnée pour la contemplation. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, après avoir essayé de voir cette influence de la vertu de religion, il y aurait le très gros problème, justement, de la contemplation. Qu'est-ce que c'est que la contemplation naturelle? En éthique religieuse. L'éthique religieuse s'achève dans la contemplation. Je vous renvoie à titre de topic le livre 10 de l'éthique à Nicomaque. C'est un livre qu'il faut avoir lu. Il faut avoir lu du reste dans ses études toute l'éthique. Indispensable. Pas nécessairement en grec, mais au moins en traduction. Et le livre 10, il faut s'y attarder et le voir avec beaucoup d'attention, c'est la contemplation, la théorie. Toute l'éthique, vous voyez ce qui montre bien que l'éthique d'Aristote n'est pas une éthique de pure amitié, c'est une éthique de contemplation, parce qu'elle est sacrée, parce qu'elle est religieuse. C'est sûr. Pour Aristote, l'existence de Dieu joue un rôle capital dans son éthique. Donc, c'est une éthique religieuse. Mais Aristote n'a pas distingué ce que nous faisons comme distinction, l'éthique proprement humaine et l'éthique religieuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas. Si ces idéologies athées. Nous, face à ces idéologies athées, on est obligé de faire cette distinction. Ça, je crois qu'on doit le faire. En comprenant bien les liens entre les deux. Et en insistant sur le fait que l'éthique proprement humaine est imparfaite comparativement à l'éthique religieuse. Et donc elle demande d'être achevée en éthique religieuse. Alors, la contemplation, ne disons pas, comme on dit habituellement, et je l'ai dit aussi moi, alors je m'accuse, c'est un manque de précision, il ne faut pas dire contemplation philosophique, il faut dire contemplation humaine, naturelle. Parce que c'est l'homme qui contemple, comprenez bien. La philosophie est dépassée par la théologie naturelle. Et la théologie naturelle est dépassée par la contemplation. Tout s'achève dans la contemplation, au plan naturel. Alors, je peux étudier philosophiquement ce qu'est la contemplation humaine. Ayant découvert l'existence de l'être premier, je peux le contempler. Ayant découvert que l'être premier est créateur, je peux le contempler. Et même, je dois le contempler. Tout s'achève dans cette contemplation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement cette contemplation humaine ? Puisque je n'ai aucun concept de Dieu, je ne fais qu'affirmer son existence. Mais en affirmant l'existence de Dieu et en affirmant que Dieu est créateur, j'affirme que Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. J'affirme que Dieu est créateur par amour et par pur amour. Et donc que je suis aimé d'un amour unique par mon Créateur, mon Père. Et que cet acte créateur se fait dans la pleine lumière de la sagesse. Vous voyez, je crois que c'est les trois conditions nécessaires pour comprendre ce que c'est que cette contemplation. Il y a donc une présence de Dieu à moi qui est unique. Et parce que Dieu est toujours présent à ce que je suis, je peux moi-même essayer de m'orienter vers cette présence le plus que je peux. Me mettre dans un état, vous voyez, de mobilisation générale pour répondre à cette présence. Être présent à celui qui est présent à moi. Et cette contemplation sera très pauvre. Elle sera en même temps d'une richesse étonnante. C'est tendre vers cette présence. Être lucide à Dieu qui est présent à moi. Essayer, dans la mesure où je le puis, d'être de plus en plus tourné vers lui. Présent à lui. Tout entier tourné vers lui. Et ceci suffit, même si je n'ai pas de connaissance directe de Dieu. Je n'ai la connaissance de Dieu que par ses créatures. Or, parmi les créatures, il y en a une qui est plus parfaite que toutes les autres, qui est la personne humaine. C'est donc par ma propre personne que je pourrai le mieux contempler Dieu. Et c'est par l'amour d'amitié que je pourrai le mieux contempler Dieu. Je crois qu'il faut maintenir ces deux voies. La voie de la pure intériorité du « je suis ». C'est temps. connaissant le mieux possible ce que je, mon je suis, que je suis le plus présent. Adieu, Créateur, au Père Créateur, présent à moi. La rencontre se fait dans le je suis. Tu restes très beau. Je suis qui n'est pas du tout saisi d'une manière psychologique, mais qui est saisi d'une manière métaphysique. Et c'est ce je suis enveloppé de l'amour du Créateur, puisque le je suis implique mon âme, et par mon âme, l'acte créateur est immédiatement présent. Et donc c'est par là qu'il peut y avoir proximité tout à fait particulière de moi-même avec le Créateur. Et cette proximité permet que je sois présent à celui qui est présent. C'est un mystère de présence. Aristote l'a parlé, Bergson l'a parlé. Il n'y a pas beaucoup qui en ont parlé. C'est suffisant. Pas besoin d'avoir une multitude. Philosophe qui en parlait. Il suffit qu'il y en ait deux. Et qui montre que la contemplation naturelle non seulement existe, mais qu'elle est le sommet de toute mon éthique religieuse. C'est la personne qui contemple l'auteur de sa personne.